Voilà, on va se plonger aujourd'hui dans des fouilles archéologiques et une restitution de fouilles qui ont lieu sur l'habitat dans notre région des Hauts-de-France, mais il y a très 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 longtemps, avec deux personnalités qui vont nous rejoindre, qui sont archéologues. Alors, Emmanuel Leroy-Langelin, bonjour.
Bonjour.
Donc, vous êtes archéologue et avec votre collègue Yann Lorrain, bonjour Yann.
Bonjour.
Vous avez conçu une exposition qui tire parti de vos travaux de recherche. Donc peut-être on peut donner le cadre général de cette exposition et de vos travaux aussi.
Oui, tout à fait. Donc là, c'est le résultat de plusieurs années de recherche d'une vingtaine de chercheurs sur la région. Donc l'exposition présente quelques résultats et surtout veut transmettre à tout public ce qu'on peut réussir à comprendre de l'homme et de nos ancêtres aujourd'hui à travers l'archéologie. Donc, ça parle essentiellement de l'habitat entre 2200 et 250 avant notre ère. Donc, c'est ce qu'on appelle les âges des métaux. Donc, on va essayer d'expliquer comment vivait l'homme, dans quel type de maison, quelles étaient ses activités, ce qu'il consommait, quels étaient les modes d'artisanat, enfin, différentes choses de la vie de l'homme au quotidien.
Alors, c'est une région, les Hauts-de-France, hein, riche en traces de l'humanité de cette période-là. Il y en aura
Oui, bien sûr. La recherche régionale bénéficie de nombreuses fouilles archéologiques récentes. Et nous sommes à même aujourd'hui de proposer des synthèses sur les différents thèmes qu'Emmanuel vient d'évoquer. Notamment, préciser les types d'habitats par grande période, les modalités de construction, les types d'artisanat qui sont pratiqués pour chaque période.
Pour ceux qui connaissent un peu Villeneuve-d'Ascq, il y a un lieu assez intéressant aussi en termes, on va dire, archéologiques, hein, une base qui sert aussi de révélateur pour le grand public, de choses du passé.
Oui, tout à fait. C'est le parc de reconstitution archéologique d'Asnapio. Évidemment, ça fait partie des parcs régionaux qui sont connus et qui aident à expliquer au grand public notre travail. Donc ça fait partie des choses qui sont dynamiques et bénéfiques pour nous, en tout cas archéologues. Donc il est connu, et notamment par les étudiants, comme il est à côté de l'université. Il y a nombreux étudiants de l'Université de Lille qui connaissent bien Asnapio, qui y travaillent, qui font des stages.
Et au-delà de cette base, on va dire, est-ce qu'il y a d'autres endroits dans la région qui sont déjà bien identifiés, voire un peu connus et célèbres ?
Oui, oui, tout à fait. Il y a notamment le parc de Samara à côté d'Amiens, qui est un parc de reconstitution et d'expérimentation archéologique, qui est même encore plus gros qu'Asnapio, hein, qui est très dynamique et qui nous accompagne aussi de temps en temps dans nos recherches, dans la construction de bâtiments, dans des expériences. Nous, on a déjà travaillé avec eux sur par exemple, des reconstitutions de fours ou de la métallurgie. Donc, c'est aussi un parc très connu dans la région.
Nous sommes associés au parc de Samara pour l'exposition, ce qui nous a permis de travailler à la restitution en trois dimensions d'un habitat de la fin de l'âge du bronze. Visite virtuelle que nous proposons aux visiteurs de l'exposition. L'aide que nous a fournie le parc de Samara a permis de réaliser ce qu'on appelle la motion capture, c'est-à-dire la prise de point des mouvements des différents personnages.
Voilà donc une exposition qui a démarré sur l'Université de Lille, à la Cité scientifique. Bon, Cité scientifique, c'est un peu logique aussi, mais ça pourrait être aussi Pont-de-Bois, hein, où il y a des choses passionnantes historiquement qui se passent en termes de recherche. Donc, qu'est-ce qu'on peut y voir dans cette exposition qui dure jusqu'au
13 décembre. On peut y voir, donc il y a deux grands aspects. Donc il y a un côté exposition assez classique, on va dire, avec des vitrines qui vont vous faire découvrir des objets découverts lors de fouilles dans les Hauts-de-France, et également des panneaux pour expliquer différents aspects, dont les thématiques que j'évoquais tout à l'heure. Et puis ensuite, il y a un deuxième volet un peu plus innovant en termes de technologie. Et d'ailleurs, on a travaillé pour ça avec d'autres laboratoires de l'Université de Lille, donc IRSICA, le laboratoire Cristal. Donc il y aura une vitrine en réalité augmentée, donc c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de cartel vraiment inscrit sur papier pour expliquer les objets à l'intérieur de la vitrine. Mais il y aura tout un système que je vous invite à venir découvrir de réalité augmentée, donc avec des petits films, des choses comme ça, à actionner soi-même. Et puis, ce dont Yann parlait tout à l'heure, le point le plus important, enfin en tout cas celui qu'on pense être le plus attractif pour le public, c'est donc une immersion totale dans une maison circulaire de la fin de l'âge du bronze grâce à un casque de réalité virtuelle où on pourra voir les personnages vivre chez eux à l'intérieur de la maison.
Est-ce qu'il existe déjà dans les musées de la région, je ne sais pas, je pense à Bavay ou ailleurs, hein, des lieux où on présente ce type d'habitat, sinon d'objet, hein ?
La réalité virtuelle est utilisée notamment au centre de Ribemont-sur-Ancre, où ils ont un espace dédié où on peut, à l'aide d'un casque de réalité virtuelle, se balader dans l'ensemble du site restitué. Nous, notre projet est un petit peu différent. On a choisi de se concentrer sur un espace habité et puis de montrer la vie dans ce cas-là de quotidien. Les activités menées au sein d'une maison avec notamment 5 personnages qui sont animés et qui restituent la vie de tous les jours.
Ce qu'on en représente dans les films, hein, pourquoi pas, dans les fictions, etc., est-ce que c'est très en décalage de vos découvertes ?
Alors, c'est une question intéressante qu'on ne cesse de se poser en tant que chercheur, c'est-à-dire qu'on propose une version au grand public de quelque chose qu'on doit se forcer à restituer, sachant que, comme l'a dit Emmanuel, on part d'objets trouvés en fouilles archéologiques auxquels il faut rendre un peu, qui peut être vivant autour, voilà, restituer tout un monde. Il faut incarner les personnages. Par exemple, on va trouver du mobilier lié à l'artisanat textile. Nous, on va proposer une personne en train de travailler à l'élaboration de vêtements. On va proposer des personnages qui portent ces vêtements. Voilà. C'est une autre façon de montrer les réalités quotidiennes il y a maintenant près de 4000 ans.
Donc il y a près de 4000 ans, on imagine que tout le monde, enfin toutes les personnes qui vivaient dans cette région étaient sédentaires ?
Oui, la sédentarisation était bien installée, hein, puisqu'elle a lieu déjà au néolithique. Et justement, tout ça se confirme aux âges des métaux. On le voit bien à travers les différentes thématiques abordées, que ce soit l'habitat, mais aussi la culture, par exemple. Il y a une diversité des espèces cultivées où on voit bien que l'homme prend vraiment possession du milieu naturel existant autour de lui et va vraiment tout faire pour vivre au mieux, en fait, à s'apporter du confort. On parle des âges des métaux parce que la métallurgie et l'arrivée de nouveaux outils en métal, ça va quand même beaucoup faciliter la vie des hommes à cette période-là.
Donc souvent, quand on pense sédentarisation, on pense des lieux où il y a des ressources, donc de l'eau et des endroits très cultivables, on va dire fertiles. C'était le cas ici ?
C'est variable, hein. La nature des sols varie, mais on voit surtout que l'homme s'adapte en fait en fonction de son milieu. Donc évidemment, il va plutôt chercher des milieux, en tout cas des terres où s'installer qui sont favorables à une installation, donc où on peut effectivement cultiver, où on peut avoir du bétail, trouver du bois pour construire sa maison, parce que l'architecture, c'est essentiellement du bois et de la terre. Mais on se rend compte aussi à travers les fouilles qu'on fait que parfois l'homme s'installe dans des milieux qui sont quand même pas très favorables et que bah, il s'adapte. On voit notamment les carpologues qui étudient les graines retrouvées sur les fouilles nous apprennent que il y a parfois des zones où il y a telle ou telle céréale qui va plutôt être cultivée qu'une autre parce que l'homme s'adapte au terrain. En fonction s'il est plus ou moins humide, plus ou moins calcaire, il plantera pas les mêmes espèces dans la terre. Donc il y a les deux. Il va où le milieu est favorable, mais il s'adapte aussi.
Est-ce que vos fouilles révèlent une vie sociale déjà bien construite, voire pacifique ? Est-ce que c'est possible d'imaginer ?
Alors, il y a deux aspects dans votre question. La vie sociale, sans problème. Toutes nos fouilles le montrent de manière assez évidente. C'est-à-dire qu'on a une organisation naissante sous forme de village, une répartition des activités avec l'émergence de spécialistes, encore parler de profession, mais on a à la fois une économie qui vise à l'autonomie des familles et puis aussi des échanges importants avec, des, comme je le mentionnais, des spécialisations de professions. Voilà. Après, c'est difficile, c'est des périodes où on ne connaît pas l'écrit et c'est difficile pour nous de restituer au mieux tout ça, mais les fouilles récentes nous aident vraiment à comprendre ces aspects. Sur la deuxième partie de votre question et sur l'aspect pacifique, c'est une période assez charnière où la production, je parlais de production spécialisée, notamment la production du métallurgiste, met en évidence la fabrication d'armes pour cette période de manière assez nette et beaucoup plus abondante que dans les périodes précédentes.
Est-ce que vous avez l'impression que l'habitat était prévu pour durer, c'est-à-dire, on va dire, abriter des générations, ou bien prévu aussi pour une destruction rapide, pour une fuite éventuelle ?
Alors c'est difficile, vraiment, le travail de l'archéologue s'arrête. Là, si vous voulez, c'est, on peut pas restituer les intentions. Nous, ce qu'on voit, c'est des choses... on comprend à partir de données factuelles. On a une architecture qui a beau être, comme le rappelait Emmanuel, de terre et de bois, on a une architecture qui peut durer. On a parlé tout à l'heure des parcs archéologiques. On a, par exemple, à Samara, des bâtiments qui, malgré les conditions météorologiques tempérées de l'ancienne Picardie, sont encore debout et... pour quelques années encore, sans trop de problèmes. Et l'architecture est développée et permet de construire vraiment des maisons solides et qui laissent encore des traces aujourd'hui dans le sol que les archéologues peuvent restituer.
Est-ce qu'il y a encore une part de mystère dans cette vie de l'époque ? Est-ce qu'il y a des secrets non encore révélés dont vous avez peut-être une petite idée au travers de vos recherches ?
Disons qu'il y a toujours des secrets, parce que là, on l'a vu, par exemple, avec l'exercice de la restitution de l'immersion, où on a été obligé de proposer des choses, hein, parce que nous, on trouve les fondations, les objets perdus dans la terre, mais évidemment, les élévations, les toitures et les activités menées, la manière dont étaient menées ces activités dans le détail, on ne sait pas. Et ça a été intéressant pour nous et compliqué d'ailleurs de faire ce travail de proposition de restitution parce qu'il fallait donner les matières, les couleurs, comment les gens se déplaçaient, qu'est-ce qu'ils utilisaient, pourquoi. On retrouve des objets, mais de là à savoir leur fonction précise, c'est quand même compliqué. Donc on se rend compte que même si les connaissances avancent et s'acquièrent et sont de plus en plus précises, hein, notamment avec l'évolution des sciences et des analyses, etc., il reste quand même encore plein de questions et plein de choses à découvrir. Et comme le disait Yann tout à l'heure, c'est une période où il n'y a pas d'écrit. Donc ça, c'est quand même important de le rappeler parce qu'on n'a aucun texte sur lesquels s'appuyer pour corroborer nos découvertes ou nos propositions, nos interprétations. Donc il y a quand même beaucoup encore de choses à explorer, de pistes et de secrets, comme vous le disiez, à découvrir.
Donc j'imagine que ça peut nourrir l'imagination et les envies des jeunes qui voudraient entreprendre des études et pourquoi pas travailler dans vos laboratoires. On peut peut-être les présenter rapidement, vos laboratoires respectifs.
Alors nos institutions plutôt que laboratoires, moi je travaille au département du Pas-de-Calais. Donc le département, l'archéologie n'est pas une compétence obligatoire du département, mais le département du Pas-de-Calais a choisi de prendre cette compétence. Donc on est un service environ d'une trentaine de personnes avec trois parts. Une part d'archéologie préventive, donc dont je fais partie, les archéologues qui vont sur le terrain et qui fouillent. Une partie médiation, donc c'est une équipe de médiateurs qui, nous, pour le département, s'attelle surtout à transmettre nos découvertes au collège. Et puis, il y a aussi un CCE, donc c'est un centre de conservation et d'études, avec une restauratrice et toute une équipe qui travaille sur les objets, leur conservation, la régie de ces objets, etc.
Et moi, je suis donc archéologue à l'INRAP, à l'Institut National de Recherche en Archéologie Préventive. La mission de l'INRAP est la même que celle du département, simplement à l'échelle nationale du territoire. Et nous sommes 230 personnes pour tous les Hauts-de-France.
Donc cette exposition, elle est aussi portée par l'Université de Lille, là, et puis donc le Pas-de-Calais est bien concerné avec une restitution qui va se faire à Dainville, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Donc l'exposition est itinérante. Donc pour la majorité des choses présentées ici, ça comme possibilité donc, de se déplacer dans d'autres lieux d'accueil. Et à partir de septembre 2020, elle sera à la Maison de l'archéologie à Dainville pour une année scolaire environ, donc jusque juin 2021. Et donc, comme ici, hein, et ça a été une des discussions avec l'Université de Lille, tous les accès à l'exposition sont gratuits, les ateliers proposés aux écoles, aux enfants, tout est gratuit. Donc, il suffit de contacter ici le service de l'Université de Lille. Donc, c'est la valorisation de la recherche. Et puis, pour le département, ce sera pareil, le service médiation. Donc, pour les professeurs des écoles, les professeurs de collège, voilà, il y aura des ateliers dédiés aux enfants accessibles sur rendez-vous.